qui m'avait promis, je vais moins parler aujourd'hui, ou plutôt, je vais vous laisser aussi davantage poser de questions. Mais je vais d'abord, si vous êtes d'accord, terminer ce que je vous avais promis, de regarder maintenant modernité, post-modernité, sans trop m'étendre, pour qu'on puisse avoir un dialogue vers des domaines raison et foi qui vous intéresseraient. Alors, donc l'actualisation, le passage de la modernité à la post-modernité dans laquelle nous sommes. La modernité, j'entends les quatre points importants qui vont contraster avec aujourd'hui. Le premier, vous rappelez ce que nous avons hier, la primauté de la raison. Une confiance absolue dans la raison humaine, qui est quasi divine. Notre cher Spinoza disait que certes, nous avons plus besoin de temps pour comprendre les choses, mais nous connaissons les choses aussi bien et aussi profondément que Dieu. C'est seulement nous sommes dans l'étendue, tandis que Dieu saisit d'un seul regard, mais nous connaissons aussi bien les choses que Dieu. Bon, c'est lié à son système que je ne vais pas rentrer. Donc, une confiance éperdue dans la raison, mais une raison universelle, c'est-à-dire que tous les hommes de tous les temps ont le même type de raison et donc de raisonnement. Notre Kant va même définir des catégories, mais je laisse tomber. C'est ce qui deviendra le fondement des droits de l'homme, les droits universels de l'homme. Cela suppose, s'ils sont universels, que tous les hommes sont capables de les reconnaître. Donc que tous fonctionnent selon le même schéma mental. Droits de l'homme aux États-Unis, et puis 1799 en France, mais donc c'est ce triomphe d'une raison universelle. Avec aussi une croyance au progrès, cette conviction que la raison va déplacer les frontières de l'ignorance et que ce progrès va amener plus de bonheur à l'humanité. Une vision donc optimiste de l'histoire de l'humanité. Vous rappelez les trois états d'Auguste Comte, l'état religieux, l'état métaphysique et l'état positiviste scientifique, où enfin l'humanité est arrivée au bout de ce cheminement. La foi en la science, foi au progrès à travers foi en la science, je disais pour Auguste Comte, les scientifiques sont les nouveaux prêtres de la nouvelle religion universelle de la raison. Et enfin, sécularisation, une distinction croissante entre la raison et la religion. Nous avons vu hier, au début, une sorte de saine indifférence, puis du mépris avec notre Voltaire, mais ce n'est pas vraiment la guerre ouverte, c'est du mépris. Et puis, au XIXe siècle, là, la fracture devient de plus en plus forte, avec un Nietzsche proclamant la mort de Dieu, etc. Donc, une sécularisation veut dire par là que le monde est les hommes sont capables de gérer les affaires du monde sans recourir à une référence religieuse, relier le monde à une transcendance, à un autre monde. Le monde se suffit, la raison humaine suffit pour gérer les affaires. Messieurs les religieux, rappelez aussi hier après-midi, si ça vous fait du bien, plutôt que de boire une bière ou d'écouter une belle musique, eh bien, faites votre culte religieux. Mais laissez ça en dehors de l'affaire de la cité. Et la laïcité, bien sûr, c'est lié à une rupture, une séparation du temporel et du spirituel, une coupure de l'espace public, et puis l'espace religieux qui est renvoyé vers le caractère privé. Nous terminions hier en disant que pour un chrétien, c'est totalement inadmissible. Nous voulons vivre notre christianisme, incarner notre christianisme, en vivant des valeurs que nous proposons à la société, comme tout citoyen a le droit de le faire. Je laisse et je passe à la postmodernité. Je fais qu'un rappel de ce que nous avons eu hier. Ce qui caractérise la postmodernité, c'est la déconstruction. C'est très étonnant. En fait, historiquement, on peut dire que la raison se fissure. Cette confiance dans la raison va se fissurer vers le milieu du XXe siècle, vers les années 60, on peut dire là,
je ne confonds pas avec cet oscillage de la révolution de 68, oui, mais c'est aussi la naissance du nouvel âge. Toutes ces années sont des années bouillonnantes dans lesquelles le passage se fait. Comment cela se fait-il qu'il y ait tout à coup une fissure dans la confiance, je devrais dire dans la foi en la raison? Il est probable que ce soit la compromission de quelques grands intellectuels du XXe et du XIXe siècle avec les idéologies totalitaires qui, à ce moment-là, s'effondrent. Le communisme s'effondre. Or, en France, je ne suis pas en Belgique, mais en France, si on suppliquait un peu d'intelligence philosophique, il fallait avoir la carte du parti. Pensez à M. Sartre. Vous vous rendez compte, lorsque Solzhenitsyn va publier ses ouvrages qui dénoncent les horreurs des goulags, je me souviens, ça faisait un frémissement en France. Tout à coup, on s'en rend compte, les intellectuels se sont complètement trompés. Est-ce qu'on peut encore faire la confiance à la raison lorsque les représentants de cette raison ont failli? N'oubliez pas que dans la modernité, les philosophes avaient vraiment, c'était ceux qu'on écoutait. Jean-Jacques Rousseau, Kant, on ne peut pas être d'accord, mais c'était des personnages qu'on respectait et qu'on écoutait. C'est eux qui ont structuré le devenir politique. Et voilà que ces grands ténors se sont complètement fourvoyés. J'ai cité le communisme en France, je cite le nazisme en Allemagne. Le grand philosophe Heidegger, qu'on continue à étudier dans les universités, mais il est compromis avec le nazisme. C'est toujours la page sombre qu'un prof de philo redoute d'attaquer, c'est quand il développe la tête de guerre, et puis un étudiant dit, non mais que faites-vous de sa complicité avec Aïe. Et c'est bon que cette question vienne. Comment se fait-il que des gens qui prétendent raisonner sur l'homme, ce qu'il est, sur le devenir de la société, tout ça, quand on voit qu'ils sont compromis avec des systèmes comme le nazisme, est-ce qu'on peut leur faire confiance à leur système philosophique? Alors, voilà, deux exemples. Je devrais citer plus de choses. Dans le domaine scientifique, là, c'est un domaine que vous connaissez, les noms sont connus. Mais il faudrait citer aussi la grande crise de la rationalité scientifique du début du XXe siècle. Les années 1900 sont des années étonnantes. Hein. Alors, je dirais positivement 1900, enfin, positivement, je voulais dire deux choses en même temps. Positivement, c'est l'interprétation des rêves de Freud, c'est le départ qui donne des lettres de noblesse à la psychologie. Avant, la psychologie faisait partie de la philosophie. Freud va donner une épistémologie, c'est-à-dire une méthode, à la psychologie qui va devenir une science indépendante. C'est ces années-là. 1900, c'est la mort de Nietzsche. 1900, c'est la théorie de Planck. Grande révolution dans le monde de la physique, quantification de l'énergie. On a l'impression que la lumière est rien plus continue que ça. Eh bien non, c'est une somme de petits photons. La physique est bouleversée. 1905, à peine après, relativité d'Einstein, mon Dieu. Pourvu qu'il ait tort, parce qu'il faut revoir toute sa physique. Mais il n'a pas tort, il a raison. Il faut revoir toute la physique. Vous sentez qu'il y a un ébranlement important, impressionnant. C'est le début de la phénoménologie. Husserl, et puis, etc., philologie, un nom chrétien auquel on rapporte. Jean-Paul II était fort influencé par la philologie, mais surtout Edith Stein, qui est sainte Bénédicte de la Croix, a été le bras droit, la collaboratrice de Husserl, le mathématicien qui est devenu le père de la phénoménologie, et elle est morte dans les camps de concentration. Elle est rentrée au Carmel, elle avait une carrière brillante de philosophie dans elle, elle est rentrée au Carmel, elle est morte. Quand concentration, elle est devenue une patronne secondaire aussi de l'Europe. Vous voyez, ces personnages, début 1900, il y a vraiment quelque chose là de très impressionnant à ce tournant. Donc il y a eu un bouleversement, je reste maintenant dans la science, entre autres avec le fameux théorème de Gödel. Alors, je ne vais pas vous démontrer le théorème de Gödel, mais qu'est-ce qu'il essaie de dire? Toute l'histoire de la rationalité de la modernité a en arrière-fond que la vérité, le modèle de toute vérité, c'est la mathématique. 2 plus 2 font 4, c'est vrai à toutes les époques, au Moyen-Âge comme aujourd'hui, pour un petit Chinois comme pour un petit Belge. c'est le plus effroyable. Voilà le modèle de l'incompréhension. On ne met pas en doute que les mathématiques soient vraies, soient sûres, c'est le fondement de toutes les connaissances. Attention, il y a un mouvement de mathématiques et de réflexion philosophique au début du XXe siècle qu'on appelle la logistique, un rapprochement, une étude mathématique de la logique ou une étude logique des mathématiques. Et on Frege, c'est un Allemand, voudrait démontrer et prétendit, je suis pratiquement en point de démontrer, l'auto-fondation des mathématiques, c'est-à-dire de justifier par la logique que les mathématiques sont sûres. Voilà une connaissance rationnelle absolument sûre, absolue, pas relative, absolument sûre. C'est à ce moment précis qu'un pavé dans la mare, un jeune mathématicien qui deviendra l'ami d'Einstein, il s'appelle Gödel, va démontrer son fameux théorème, entends-moi bien, va démontrer l'impossibilité de démontrer que les mathématiques sont autosuffisantes, autocohérentes. Autrement dit, nous ne pourrons jamais démontrer la validité des mathématiques. C'est acquis maintenant. C'est un terrible ébranlement. On peut toujours compter dessus, la preuve, le monde continue, les sciences continuent. Mais au niveau rationnel, au niveau de cette confiance, j'oublie pas raison et foi, hein, au niveau de cette confiance dans la raison, on n'a pas besoin d'autre chose, on a tout est fondé sur la raison, les mathématiques, c'est le paradigme, elles sont auto-fondées. Non. Non. Et là, Descartes avait eu un pressentiment. Il était passé par la preuve de l'existence de Dieu avant d'arriver aux mathématiques, mais je laisse tomber, non, ça devient trop subtil. Je vous raconte ça pour que vous sentiez qu'il y a eu un profond ébranlement. Vous n'êtes, il y a peut-être parmi vous, mais en général, vous n'êtes pas des scientifiques, peut-être que ça, vous dites, bah, ce frémissement-là, je ne l'ai pas connu. Je vous assure, maintenant je ne suis plus dans la recherche, que vraiment, c'était un grand questionnement. C'est un trouble. Et vous connaissez peut-être le nom de M. Ladrillière, qui est un professeur de Louvain-la-Neuve, mondialement connu. C'est le meilleur épistémologue francophone. C'est un mathématicien qui est devenu épistémologue, qui a fait des cours admirables et des bouquins sur ce théorème de Gödel. Tout ce que ça a changé pour notre conception de la raison humaine et des capacités de la raison. Donc il y a un ébranlement, hein, aussi bien du côté scientifique, aussi bien du côté politique, l'effondrement des grands systèmes, des grandes idéologies, et du côté philosophique aussi, au niveau de l'effondrement de ces grands systèmes, ça a quand même joué. C'est Léotard, j'ai cherché ça, c'est Jean-François Léotard, qui parle des grands récits se sont effondrés. Or, dans une société, nous tous, nous avons besoin de nous référer à un mythe fondateur. Attention, n'employons pas ce mythe dans n'importe quoi. Je m'explique. Pour fonder le sens de notre vie, nous avons besoin de comprendre l'origine et la fin. Le sens, c'est pas simplement la fin. Quel sens est-ce que je donne à ma vie? Le sens, c'est aussi l'origine. D'où est-ce que ça vient? Pour que je puisse dire où est-ce que je veux aller, je dois savoir qui m'a jeté dans cette aventure. Autrement, qu'est-ce que je peux faire de cette vie si je ne sais pas si c'est un don, de quoi s'agit-il? C'est la question du sens. Et tous les systèmes religieux veulent répondre à cette question du sens. Nous aider à pouvoir construire un sens à notre vie. Nous aussi, nous avons un mythe fondateur, mais ce n'est pas un mythe, c'est une expression philosophique du mythe fondateur. Hein. Notre mythe fondateur, récit de la Genèse, qui nous dit, encore une fois, c'est pas un mythe, il n'a d'ailleurs pas la structure du mythe. Le mythe parle de l'histoire des dieux. C'est un récit fondateur qui est inspiré pour nous. Qui nous dit que Dieu a créé le monde, qu'il a créé l'homme en vue d'une relation d'amour, en vue d'une alliance d'amour entre le Bereshit, première parole de la Bible, qui s'adresse, mais je ne vais pas faire l'exégèse du Bereshit, mais croyez-moi, le Reshit, ça signifie alliance. Le bête, ça signifie qu'on s'adresse à l'homme. Le Bereshit est clairement, dès la première lettre, lecteur. Toi qui, plein d'angoisse sur le sens de ta vie, te réfères à ce texte, sache que Dieu t'a créé par amour, pour une alliance nuptiale d'amour. Et quelles sont les dernières paroles de l'Apocalypse, à l'autre bout du récit? l'Esprit et l'Épouse disent « Viens, Maranatha ». Vous voyez, c'est une inclusion entre une déclaration d'amour de Dieu qui dit « Mais mon enfant, je t'ai créé pour l'amour. Jette-toi dans mes bras, je veux être ton époux. » Voilà, c'est notre récit fondateur. Et nous avons tous, tout homme a besoin de ça, toutes les traditions. Or maintenant, regardez, analogiquement, je peux dire que le mythe, alors là, c'est du coup, ce n'est pas un mythe, c'est une utopie communiste, s'effondre. L'utopie nazie de Übermensch, alors là, tout s'effondre. Attention, les hommes n'ont plus confiance dans ces récits de référence. Ça nous a touchés, nous aussi. Peut-être pas le croyant, qui sait que c'est une parole inspirée. Mais lorsque tout s'effondre, vous savez, c'est difficile qu'il y ait des choses qui restent debout. Et la raison, voyant qu'elle ne peut plus se référer à ces mythes qu'elle a construits elle-même, communisme, nazisme et toutes ces choses-là, tout ça c'est du vent, elle devient méfiante. Et elle se retire. Elle ne croit plus à la possibilité de trouver la vérité. Et là, nous touchons le drame de la postmodernité dans laquelle nous sommes. L'objet formel de l'intelligence, c'est le vrai. L'objet formel de la volonté, c'est le bien. Ça, c'est une anthropologie traditionnelle, classique. Mon intelligence cherche à savoir la vérité. Et je veux faire le bien pour que ma vie soit belle. Aujourd'hui, il y a un bof. On dit non, c'est vain. Ça ne marchera pas. La vérité, c'est un concept. Et chacun croit, juste tendre à la vérité, il tend vers une illusion. On tombe dans un scepticisme. C'est redoutable, c'est la mort d'une culture, ça. Et nous y sommes. Alors ce relativisme à chacun sa vérité, ça veut dire ça. Il n'y a plus de vérité. C'est d'abord négatif. Après, on vous dira chacun sa vérité. Oh, prends-toi. Non, non, non. C'est d'abord, historiquement, le développement. C'est vain, c'est stérile. Nous n'atteindrons pas la vérité. Ils n'y sont pas arrivés avant nous. Ceux qui auraient dû dire la vérité se sont pris un mur, se sont complètement plantés, abandonnant cette prétention à rejoindre la vérité. Et vous, les mythes qui dites que vous allez nous construire la vérité, causez toujours, ça ne sert à rien. Vous sentez ce découragement, et on le sent autour de nous, hein, cette sorte de tristesse. Il n'y a plus d'élan. Il faut accrocher sa charrue à une étoile, disait Saint-Exupéry. Et les étoiles de nos vies, c'est les valeurs. C'est le vrai, le bien, le beau, l'un, l'être, voilà les valeurs. Hein. L'être, l'un, le beau, le vrai, et tous ensemble, le bien, le vrai, et tous ensemble, c'est le beau. Aujourd'hui, pouf, on retombe. Il n'y a plus de beau. Ça se dit dans l'esthétique, il y a une crise esthétique où on provoque d'une façon incroyable. On fait quelque chose d'aussi laid que possible pour casser justement le mythe d'une esthétique. Alors que si on écoute un peu dans son cœur, mais oui, il y a une aspiration au beau. On sent qu'il y a quelque chose, comme je vous ai déjà hier, cette affirmation, il n'y a plus de Dieu. Alors que la majorité des gens cherchent Dieu. On refuse le beau alors que les artistes continuent toujours à agir. Vous voyez la contradiction ? Nous sommes dans un subjectivisme contradictoire. C'est une façon dont on définit la postmodernité. La modernité, c'est un subjectivisme cohérent. Ici, c'est un subjectivisme contradictoire. Et c'est très douloureux. J'essaie de toucher ce sentiment, cette souffrance que nous sentons tous dans notre culture, ce malaise. On a l'impression de tout saisir. Et puis ça, je vous racontais l'histoire hier de la confrontation politique. On a dit, mais j'entends bien la cohérence. C'est ta vérité, c'est pas la mienne. Alors, on ne peut plus dialoguer. On n'est plus des êtres humains si on ne peut plus dialoguer. Qu'est-ce qui se passe? On est renvoyé à notre solitude. Qu'est-ce qui se passe? À cet isolement dans une pseudo-vérité dont on ne croit plus. C'est là un peu le drame, le relativisme universel. Alors, je dirais, ce n'est pas vraiment du nihilisme. Là, je renvoie plutôt vers Nietzsche. C'est du relativisme. Alors, ce n'est pas une négation de toute la vérité, c'est plus subtil. C'est à chacun sa vérité. Ce que tu expérimentes comme vrai, eh bien c'est ta vérité à toi. Ce que tu expérimentes comme bien, c'est ce qui est de bon pour toi, c'est ta morale à toi. Ce que tu expérimentes comme beau, c'est ton sens esthétique à toi. Waouh! Sans aucune autre référence. Vous voyez, l'expérience subjective sont les critères de discernement. Ce que je discerne n'a aucune valeur universelle, aucune valeur objective. C'est purement subjectif, et ce que je trouve beau aujourd'hui, je trouverai peut-être laid demain, et ça ne change rien du tout. Benoît XVI disait, on est en train de mettre sur pied une dictature du relativisme qui ne reconnaît rien comme définitif et qui donne comme mesure ultime uniquement son propre ego et ses désirs. C'est bien dit, hein? Je le reprends. Hein? On est en train de mettre sur pied une dictature du relativisme qui ne connaît rien comme définitif et qui donne comme mesure ultime uniquement son propre ego et ses désirs. Bien sûr que c'est contradictoire. Et il y a des philosophes qui le soulignent. C'est déjà ce qu'Aristote soulignait devant les sophistes. Quand vous affirmez qu'il n'y a pas de vérité, ben, vous prétendez quand même dire quelque chose de vrai, non? J'affirme qu'il n'y a pas de vérité. Mais ce que je prétends que c'est vrai. Donc il y a au moins une vérité. C'est de dire qu'il n'y a pas de vérité. Mais si on a une, ben, il y en a une. Dans votre exemple, vous voyez la contradiction, hein? Aristote disait déjà aux sophistes, il dit, mais vous pouvez que vivre comme une plante, une fille végétative. Parce que tout ce que vous faites, ne fût-ce que manger pour vous affirmer dans la vie, vous êtes hors de votre relativisme. Vous affirmez la valeur de la vie, parce que tout le monde, il faut arrêter de manger. Rien d'inventé de nouveau. L'argument est valable, vous savez. C'est du sophisme, hein? Et pourtant, c'est ce qui marche. On vous dit qu'il n'y a pas de vérité, renvoyez à la personne qui vous le dit, alors ce que vous dites ne tient pas. Vous savez, c'est Russell posait ce fameux célèbre problème, hein. Je suis crétois, j'habite la Crète, je suis crétois, et j'énonce tous les crétois sont menteurs. Comment l'ensemble? C'est la logique, ça, je ferme la parenthèse. Oui, il y a une erreur logique. Il me semble qu'il y a un problème, quoi. Bon. Alors, ce relativisme-là, je n'y reviens plus. Je voulais souligner où il nous conduit dans une impasse totale. On ne sait plus où on en est. Et nous, avec notre foi, alors, on vous dira, bien, tu vis ta foi dans ton petit coin, mais viens surtout pas nous en parler. Écoute, tu as ta vérité, tant mieux pour toi, mais viens pas nous en parler. Et n'en parle pas trop fort, parce que si demain tu changes, tu auras l'air malade. Donc chacun pour soi et n'en parle pas autour de toi. Liez ça à la laïcité, on vous renvoie au laïcisme, vos opinions personnelles ne concernent pas la place publique. Vous avez le droit à penser ce que vous voulez chez vous, mais pas sur la place publique. Vous sentez comment ça se tient. Alors maintenant, poussons encore un pas plus loin. Je vais rejoindre des débats que vous avez déjà vus avec le diable. Au fond, il n'y a plus de vérité. Il n'y a plus de Dieu dans le ciel. Je commence par là. Il n'y a plus de Dieu dans le ciel pour fonder les vérités, pour leur donner une objectivité. Donc elles sont relatives. Donc elles n'ont aucune véritable valeur. Ce qui nous permet, ça c'est l'aspect négatif, l'aspect entre guillemets positif que la postmodernité essaie d'en tirer, mais alors, il n'y a plus aucun frein à notre action. Parce qu'avant, on était limité parce qu'il y a certaines valeurs qu'il fallait respecter. Donc des choses qu'on ne faisait pas au nom des valeurs, puisque les valeurs n'existent plus. Tout est possible. Tout ce que l'on peut faire en science est légitime. Il n'y a pas besoin de réflexion éthique. Ce qui est techniquement possible est légitime puisqu'il n'y a plus de morale. On essaie de bafouer quelque chose, un consensus, mais un consensus qui ne se fonde que sur des individus relatifs, c'était un échec dès le début. En France, ça ne marche pas, c'est clair. Vous voyez, tout est possible. Et il y a une affirmation d'une liberté absolue, qui n'est plus relative à rien d'autre. Notre définition de la liberté, c'est la capacité de discerner le vrai et d'accomplir bien, et par là de trouver l'épanouissement de notre être. Mais s'il n'y a plus de vrai et plus de bien, ma liberté authentique, je parle comme saint Thomas, elle est conditionnée par la vérité, par le bien, et ultimement le bien ultime, Dieu. Je la reçois de Dieu. Ma liberté est relative à celui qui me la donne. Si maintenant il n'y a ni Dieu ni valeur, ma liberté est absolue. plus rien ne peut m'arrêter. Je suis autonome, nomos, ma loi, je suis moi-même ma propre loi. Plus rien ne peut m'arrêter sinon la liberté du voisin. Donc il y a un consensus au niveau social, je peux étendre ma liberté aussi longtemps que je n'empêche pas mon voisin de faire de mal, sans réflexion morale. Faisons un pas de plus. Liberté absolue qui vient de ma faculté de choisir, justement, c'est-à-dire de ma dimension spirituelle. Mais alors, au niveau du comportement, cette liberté spirituelle s'inscrit dans une humanité, c'est-à-dire dans une nature humaine. Je parle selon la philosophie traditionnelle d'une nature humaine, et cette nature, elle est sexuée. Alors on pourrait vous dire, oui d'accord, vous avez une liberté absolue, mais vous êtes un homme ou vous êtes une femme, votre liberté est quand même conditionnée par votre nature. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans les débats publics, on refuse le concept de nature. La nature semble être quelque chose qui est donné, qui s'impose à moi et qui va conditionner ma liberté. Que me nie, je n'en veux pas. Sartre dit, je le cite, j'ai la citation, mais je ne la connais pas car elle est tellement connue. Sartre dit, il n'y a plus de nature puisqu'il n'y a plus de Dieu pour la fonder. On refuse le concept de nature. C'est soi-disant un concept créé dans le passé, mais qui est un flat roche, c'est-à-dire un simple phonème, ça ne correspond à rien. Oui, mais vous direz, mais attendez un peu, ma nature est quand même masculine, ou plutôt mâle ou femelle. Il y a quand même une évidence sensible dans la nature, je peux reconnaître si c'est un homme ou une femme devant moi. Peut-être, me répond-on, et là c'est le diable, hein, peut-être, me répond-on, j'ai un corps mâle ou femelle, mais mon comportement masculin ou féminin, c'est moi qui le décide indépendamment de ma biologie. Alors, vous connaissez le gender, je n'ai rien de nouveau, mais je voulais vous montrer comment il s'inscrit dans ce travail de déconstruction, de relativisme, d'échec dans l'élan de l'humanité à construire un canton qui retombe et dans une volonté de liberté, d'autonomie absolue qui s'affirme. Je veux pouvoir décider indépendamment de quelque nature que soit. C'est le cri de Madame Simone de Beauvoir, la compagne de Sartre. On ne naît, du verbe naître, on ne naît pas femme, on le devient. Quelques mois plus tard, elle écrira, on ne naît pas homme, on le devient. Heureusement, sans quoi il y aurait une injustice par rapport aux hommes. Alors, il faut entendre ce qu'il veut dire par là. Je le dirais plutôt avec la parole de son compagnon. L'existence précède l'essence. Pardon pour le terme. L'essence, c'est ce que je suis, un homme ou une femme. En philosophie, l'essence définit la quidité, ce qui fait que je suis ce que je suis et pas autre chose. Alors, Sartre refuse qu'il y ait quelque chose qui s'impose à moi comme une nature et dit non, l'existence, à savoir l'affirmation de la liberté, précède. Quelle que soit ma nature, je suis libre de décider ce que je veux faire. C'est impressionnant. Moi, ça m'impressionne. Cette volonté de puissance, Nietzsche nous a vu hier, cette volonté d'autonomie absolue, et vous avez remarqué qu'il se fond de nouveau, il n'y a pas de Dieu pour fonder la nature, donc il n'y a pas de nature. Nietzsche était, il n'y a pas de Dieu, donc il n'y a pas de valeur. Et vous voyez comment on déconstruit, pourquoi on parle de déconstruction? Il y a une affirmation massive, on barre Dieu, vu comme celui qui jette de l'ombre sur l'homme. Et puis on déconstruit tout ce qui avait été construit et qui est vécu comme une normativité, pour avoir une liberté de plus en plus absolue. Pas facile d'annoncer l'évangile dans un tel contexte, dites. On est repoussé avant même d'avoir venu. Je vous disais, ce que je voulais vous montrer, c'est d'où vient cette hostilité aujourd'hui. Dès qu'un chrétien surgit et s'affirme, on lève le bouclier. Attention, le dieu castrateur, pour employer l'expression de Freud, revient. Les normes vont venir, la morale va venir, c'en est fini notre liberté. Voilà, avant même que vous ayez ouvert la bouche. Alors évidemment, le mot liberté est ambigu pour saint Thomas d'Aquin. Cette liberté de tout faire, ce n'est pas la liberté, c'est le libre arbitre. Il dit la libre arbitre est une liberté malade, une liberté qui est dans la confusion du péché. Si je peux me détruire, c'est pas ça la liberté que Dieu m'a donnée. Alors, je continue. Doute sur la capacité de la raison à rejoindre le vrai, mais si la raison ne rejoint pas le vrai, à quoi bon discerner les choses avec sa raison? Nous pensons, je vais d'abord faire une petite anthropologie biblique, mais je l'ai déjà fait, mais je reprends rapidement. Nous sommes des esprits incarnés. Nous avons des facultés purement spirituelles, l'intelligence et la volonté. Mais cette âme spirituelle anime un corps. Et nous pourrions dire qu'il y a une sorte d'interface, le mot n'est d'ailleurs pas exagéré. C'est tout le domaine que saint Thomas appelle les passions de l'âme. Notre discours à nous langage, les émotions, les sentiments. Ça n'est pas spirituel. Ce sont des mouvements de l'âme, des mouvements qui s'imposent à nous. Saint Thomas dit que cela procède du corps. C'est une richesse de notre humanité. Mais logiquement, la grâce de Dieu éclaire l'intelligence, lui donne comme objet formel la vérité. Éclaire la volonté, lui donne comme objet formel le bien. Et nous donne la capacité de subordonner, de soumettre les émotions, les sentiments, l'affectivité, les soumettre à l'intelligence et à la volonté. Je prends un exemple concret. Un médicament à prendre, c'est jamais très drôle. On fait la grimace. Et si on écoute uniquement nos sentiments, je ne veux pas, ça c'est les gosses. Ils n'ont pas tout mauvais. L'adulte dit, c'est peut-être mauvais, mais ça va me faire du bien. Hop, je passe le narine et je bois. Votre intelligence a vu que c'était ce qu'il fallait faire et vous avez pris par votre volonté autorité sur vos sentiments. L'enfant n'y arrive pas justement parce qu'il faut l'éduquer dans son intelligence et sa volonté. Autrement, qu'est-ce qui va arriver? Il va être l'esclave de ses passions, l'esclave de ses émotions, mais je prends le terme de saint Thomas, les passions de l'âme. Tout simplement, il n'aura pas appris à distinguer entre les envies, j'ai pas envie d'aller à la messe, j'ai pas envie, on entend ça sans cesse, hein, entre la visée du bien, l'aspiration au bien, aussi onéreuse qu'elle soit. Et il faut prendre la maîtrise sur le vieil homme qui, lui, ne manque rien d'autre qu'à rester à jouir des choses de la terre. Mais si on n'a plus confiance dans l'intelligence, dans sa capacité de rejoindre le vrai et dans la volonté de faire le bien, à quoi bon éduquer? À quoi bon se battre? J'ai envie, je le fais. J'ai pas envie, je le fais pas. Je ne trouvais pas que c'est une actualité douloureuse pour les parents qui ont mal fou à éduquer les enfants et qui finissent par démissionner parce qu'ils n'y arrivent plus. Au catéchisme, dans ma paroisse, les catéchistes, l'une après l'autre, ont abandonné. Mais c'est impossible. Les gosses me disent, à la maison, on fait tout ce qu'on veut, donc ici, on fait tout ce qu'on veut aussi. On est obligé de demander aux parents de venir parce que c'est intenable. Le curé le disait, le précédent, il disait, ben oui, au bout de la rue, j'ai vu où était le catéchisme, ils ont hurlé les enfants. Et c'était des catéchistes qui étaient de vieille génération, qui avaient l'habitude et qui avaient l'autorité. Ils disaient, c'est fini, on ne sait plus, on a perdu là. L'enfant roi, tous les psys du monde disent, mais c'est la catastrophe. Mais l'enfant roi, c'est le fruit de quoi? Mais d'une démission. D'une démission parce qu'il n'y a plus confiance dans les valeurs spirituelles, l'intelligence, la volonté. Le discernement se fait maintenant au niveau du ventre, comme je dis, c'est Dieu des émotions. Mais il ne se fait plus dans la tête. Comment voulez-vous que notre humanité s'élève? Elle va descendre toujours plus en l'hédonisme, jouir toujours plus intense, le principe du plaisir, le ça de Freud. Hein. On est dans... triste. C'est très triste tout ça. Voilà, émotions et sentiments ont pris le pas. Et vous avez vu la logique. Hein. Autant la raison était sur un pinacle. Papa, da, 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 boum. Le pendule est parti de l'autre côté. On n'a plus confiance. Et du coup, qui nous attend de l'autre côté? Je vous l'ai dit hier. Je vous ai tout donné les clés hier. Bellinich, bien sûr. Du côté de l'hyper-raison, vous aviez notre Auguste Comte, mais je vous dis que Nietzsche voit plus loin, lui. Il voyait très bien que la morale se fonde encore dans un raisonnement. Oui, bien sûr. on fait des études d'éthique, et que de nouveau, on allait être dans une maîtrise, on n'allait pas pouvoir faire n'importe quoi. Donc il faut nier, il est anti-rationalisme, contre le rationalisme. Il meurt, je l'ai dit, en 1900, donc il est post, hein, c'est la fin du romantisme, enfin ce romantisme. Il est contre, et il appelle de ses voeux la liberté instinctive, l'élan instinctif, le retour des pulsions instinctives librement exprimées, ce que nous voyons aujourd'hui. Je dis, c'est prophétique, notre Nietzsche. La crise de la rationalité va donner raison à Nietzsche et va nous entraîner sur cette ligne d'une requête euphorique de toujours plus de jouissance. J'ajoute que cette sorte de dépression collective, parce que c'est une société dépressive, hein, dans laquelle nous sommes, et c'est là, si j'en parle, c'est pour que nous réveillons notre responsabilité, notre image de l'homme, notre image de l'éducation par l'enrichissement des valeurs spirituelles, de l'intelligence, de la volonté, elle reste valable, frères et sœurs. C'est pas parce que le monde marche sur la tête que nous devons courir sur notre tête. Et notre responsabilité, c'est de tenir bon. Vous savez, les balanciers vont d'un à l'autre et ils reviennent. Hein. Mais il faut tenir bon. En plus de pessimisme, il y a effectivement une conscience du mal historique. Et ce n'est pas le moindre des drames de notre époque. Hein. On était dans cette utopie du progrès indéfini, je voulais dire. L'intelligence va repousser les frontières, on va vers le monde idéal. Boum, première guerre. Que de mort et stupidité. Deuxième guerre, c'est pire encore. Avec des possibilités de destruction qui deviennent inimaginables avec la bombe d'Hiroshima, etc. Et croyez-vous qu'on en a terminé correctement? Mais non. J'ai vu des statistiques. Savez-vous que depuis le début du troisième millénaire, le nombre de guerres simultanées sur la planète est plus élevé qu'elle n'a jamais été. Nous allons de mal en pire. Les guerres se déclenchent partout. On n'a même plus le temps de les suivre. L'utopie du progrès est morte. C'est très grave. C'est très grave. Parce que même si c'est un rationalisme athée, au moins, les hommes se mobilisaient pour construire un avenir meilleur. On va prouver à ces chrétiens qu'on peut faire une humanité meilleure. Bon, au moins, on se tendait vers quelque chose. Aujourd'hui, c'est fini. On voit bien que ce n'est pas la peine. Et alors, on a eu le coup, on a eu quand même, on a eu l'estocade avec le 11 septembre. Je crois qu'on n'est toujours pas de ce que ça veut dire, ce qu'au cœur même de l'État prétendu gendarme du monde, le plus protégé, tout cela, on puisse faire effondrer ses tours. Malheur. C'est comme le symbole de la destruction de cette espèce de tour de Babel, de cet orgueil humain qui monte jusqu'au ciel. Il y a un ébranlement très fort, peut-être plus fort que ce que nous en avons conscience, c'est ce que je voudrais vous faire sentir. Il y a un ébranlement très fort aujourd'hui. Qui peut être, oh, c'est pas gentil de dire comme ça, une chance, je veux dire, il n'y a plus d'espoir. Vive l'espérance. Vous avez compris, hein? Le témoin a un témoignage extraordinaire aujourd'hui, parce que, alors on se met des pinces, hein, comme ça derrière, c'est rien, tout va très bien, madame la marquise, mais un suicide sur notre planète tous les 4 secondes. Vous m'entendez? Tous les 4 secondes, il y a un suicide sur notre planète. Mais à part ça, madame la marquise, non, tout ne va pas très bien. Non, ça ne va pas du tout. Et on continue parce qu'on ne voit pas comment revenir. Sauf que ce qui n'était pas prévu du tout. Je vous ai cité hier Gaucher, qui a été célèbre avec son ouvrage il y a quelques années, de désenchantement du monde. Et M. Gaucher annonçait, avec beaucoup de choses, que ça y est, c'était la mort du religieux. D'ailleurs, le christianisme était la religion de la sortie du religieux, etc. Le religieux était mort. Mon Dieu, 25 ans, un quart de siècle plus tard, Berger, un Américain, Berger, ça veut dire, a écrit un ouvrage, Le réenchantement du monde. Et tous ces auteurs qui étaient les héros de la fin de la religion ont dû constater que, ben non,
contrairement à la prévision, il y a une sorte de réenchantement, sauf que c'est un retour complètement désordonné du sentiment religieux. Et là, vous m'avez assez entendu parler du Nouvel Âge. Le Nouvel Âge, cette espèce de nébuleuse où vous avez du tout, hein, depuis la cuisine macrobiotique jusqu'au spiritisme, en passant par l'ésotérisme d'un Steiner, etc., le taoïsme, bien sûr, et tout ce micmac, là, ce supermarché du spiritueux plutôt que du spirituel, et ça, c'est ce retour anarchique du sentiment religieux, ce bricolage. On a brisé toutes les traditions. Et maintenant, on prend un peu à gauche, à droite, et on colle parce qu'on ne sait plus à où donner de la tête. On veut des raisons de vivre. Alors, on va se les construire. On ne se réfère pas à une tradition qui fait ses preuves. On fait du bricolage. On colle des petits morceaux. Et comme je vais parler comme le prophète Jérémie, et on va dire, toi, tu es mon idole, ce que je viens de faire. Tu es mon Dieu. C'est cela qu'on est capable de faire. On se donne des dieux. Et pourquoi on ne revient pas au christianisme? Oh non, alors! Parce que l'impression est très forte, les injonctions sont très fortes. Et je suis moi vous dire le fond de ma pensée. Parce qu'il y a un mouvement très fort pour éviter que le christianisme relève la tête. Vous savez, je vous disais hier que les grands artisans de la raison absolue, quand on est passé d'une cohabitation pacifique à une agressivité, c'est aussi ceux qui ont fondé la franc-maçonnerie. Bon, c'est un peu plus compliqué, la franc-maçonnerie vient de lorsque le renouveau de la Rose-Croix est passé en Angleterre, a pris les anciens maçons, etc., et puis est venu. Mais c'est de cette époque-là. Là, quand la franc-maçonnerie a envahi l'Europe, Leibniz a voulu les rencontrer, Descartes a voulu les rencontrer, toute l'intelligentsia qui sentaient le problème de la foi qui commençait à être en porte-à-faux, se sont portés de l'autre côté. Kant, puis Lessing, entre autres, Lessing qui sont les grands noms aussi de cette époque-là, ils sont passés dans l'utopie humaniste d'une humanité qui va faire mieux que le bon Dieu, quoi, qui va créer un homme nouveau, une société nouvelle, instaurer le bonheur, concrètement. Mais pour cela, il faut éliminer définitivement ce Dieu transcendant qui donne des lois à l'homme et qui empêche l'homme d'être libre. Et aujourd'hui encore, ça reste ce vieux antagonisme entre un humanisme athée qui est une divinisation de l'homme et la religion chrétienne qui, au contraire, remet Dieu à sa place. Vous savez, ça joue beaucoup quand on sait combien les médias sont sous leur coupe, comment en France les systèmes politiques sont noyautés par la franc-maçonnerie. Si j'avais dit ça il y a 15 ans, on dit « Oh là là, il fait dans le conspirationnisme ». Aujourd'hui, ce que je dis là, tout le monde dit « Bah oui, c'est comme ça ». Sauf que c'est comme ça, ça veut dire qu'on laisse faire. Et quand on entend les présentations du christianisme, on entend bien combien elles sont mensongères. Mais le père du mensonge qui est homicide et les origines, Jésus lui donne un nom, et Saint Jean lui donne un nom, hein, celui qui manœuvre l'intérieur. Mais oui, l'antagonisme de fond, il est là entre les deux voies. Le Dieu transcendant règne-t-il? Est-ce que c'est Jésus qui règne? Ou bien est-ce que c'est Satan qui va régner à travers ce petit fantoche de l'homme qui se croit un Dieu? C'est une marionnette entre les mains de l'ennemi. Et nous sommes au cœur de tout ça, avec ce développement, de ce retour désordonné du sentiment religieux. Et je laisse tomber le Nouvel Âge, ce n'est pas notre sujet. Mais je dis un mot sur le développement personnel. Ah ça, c'est le look contemporain moderne du Nouvel Âge. Et si vous êtes même dans cette entreprise, on va vous payer des stages de développement personnel. Alors ça va du saut en élastique, mais ça c'est pas très malin. Ça va aussi jusqu'à des séances de yoga, de zen, de toutes sortes de techniques, voire même de l'expérience de drogue, etc. Étonnant, quoi. Toutes les techniques du Nouvel Âge sont reprises. Développement personnel, ça fait bien, hein? C'est pour le bien de la personne. Que de couples j'ai vu se diviser parce que l'un ou l'autre, monsieur ou madame, était pris dans ce rouleau compresseur. Il commence par un stage de développement personnel pour être plus formellement en entreprise et pour pouvoir briguer une place. Mais évidemment, après un stage, on lui en propose un autre et un troisième. Et finalement, il n'est plus jamais en famille.
Et puis, je n'invente pas, vous savez, vraiment du témoignage. Hein. Et puis un beau jour, dans ces stages, on rencontre une personne qui vous dit, vous êtes marié, vous? Oui. Ah, c'est dommage. Pourquoi vous dites ça? Ah, mais parce que vous aviez vraiment une vocation, vous. Hein. Ah, vous êtes tout et dans le développement personnel. Mais bon, si vous avez une femme et des enfants, il faut occuper de votre famille. Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, mais que si vous étiez disponible, vous pourriez aller loin. Énorme tentation du tentateur. Et combien ne succombent pas? Vont rompre avec leur épouse pour le bien de l'humanité. Ils ont une mission, etc. Mais mon Dieu, j'ai entendu ce discours dans les écoles ésotériques aussi. Et j'entends que dans certaines écoles de développement personnel, c'est le même discours, donc c'est la même locuteur derrière. C'est la même chose. On brise les familles. D'ailleurs, aujourd'hui, les familles, on entend qu'on n'en parle plus. On sait que c'est une purement déconstruction. Là encore, on va vous dire que la famille a été construite dans la société pour, par les hommes, bien sûr, pour maintenir leur pouvoir sur les femmes. Il suffit donc de déconstruire la famille. Il n'y a aucune raison que la famille hétérosexuelle et monogame soit la normative. La famille peut tout aussi bien être hétérosexuelle, polygame, et d'abord, ce mot famille, éliminons-le. Ou alors, revendiquons-le pour toutes les formes de cohabitation possibles. Ça, c'est la France, où on en est. C'est de la déconstruction où on prétend, sans aucun fondement historique, que les structures sociales qui sont telles que la famille ont été construites par l'homme. J'espère que je ne dois pas insister pour vous dire que la famille et le mariage est de droit divin pour nous. C'est Dieu qui crée l'homme et la femme, qui les crée différents et qui les conduit l'un à l'autre. C'est Dieu qui tire Ève du côté d'Adam, mais on verra si on a le temps de parler de l'explicité, qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est Dieu qui conduit Ève vers Adam. Et c'est dans le face-à-face, dans la découverte, l'amour naît de la différence. Dans la découverte de l'amour, qu'ils font leur première expérience de Dieu. Oui, c'est grandiose. Pour nous, le mariage est droit divin. Pas question d'y toucher, pas question de le banaliser, pas question d'accepter d'autres unions. C'est impossible, c'est pas du fanatisme. C'est tout simplement, pour nous, c'est de droit divin. Point. Ça fait partie de l'anthropologie, fondement même de notre anthropologie. Évidemment que le monde ne va pas nous écouter. Mais nous ne sommes pas obligés d'écouter le monde. Ce n'est pas l'Église à se convertir au monde, comme on voudrait nous le faire faire, c'est tout le monde à se convertir à la parole, du moins nous la proposons. Mais ne faisons pas l'inverse, ne nous laissons pas entraîner dans ce courant-là. Nous ne pouvons pas, c'est vraiment la parole de Dieu. Alors, ce réenchantement du monde est effectivement anarchique, très ambigu. Écoutez ce que disait Chesterton, un converti anglais. C'est du British humour, c'est de l'humour british, c'est très bon. Depuis que les hommes ne croient plus en Dieu, ce n'est pas qu'ils ne croient plus en rien, mais c'est qu'ils sont prêts à croire à tout. C'est très bon ça. Et oui, ils croient à tout, on fait une idole de tout maintenant, de tout sauf de Dieu. Voilà où on en est. Alors, cela transparaît jusque dans notre christianisme. C'est aussi pour ça que je vous en parle, je vous le disais hier. Nous sommes immergés dans cette culture. Vous croyez qu'on en sort indemne? Vous savez, quand on plonge un tissu dans un colorant, il en est coloré. Alors, des exemples de ce relativisme. Oui, oui, l'Église dit qu'il faut aller tous les dimanches à la messe, mais s'il fallait écouter l'Église. L'Église dit que, mais moi je dis que. Vous avez donc une autre vérité que celle de l'Église. Ah oui, chacun sa vérité, n'est-ce pas? Le pape a la sienne et moi j'ai la mienne. Avez-vous compris? N'oublions pas qu'à travers le magistère, je le disais hier, pour nous la révélation, c'est pas que les Écritures. Les Écritures sont d'ailleurs la tradition des premières. Il y a d'abord une tradition orale qui s'est fixée ensuite par écrit, et puis la tradition s'est prolongée dans l'interprétation normative des pères, dont plusieurs sont papes. Et le magistère nous dit aujourd'hui l'interprétation authentique de la parole de Dieu. C'est nos frères protestants qui disent sola scriptura. Mais nous sommes catholiques. Mais n'oubliez pas, si j'insiste, parce que là, c'est vraiment branlant dans notre milieu catholique. Je crois aux paroles de Dieu, mais l'Église, hein. Mais non, je suis désolé. Ça fait un tout. Jeanne d'Arc disait, on lui posait, Monseigneur Cochon, qui portait bien son nom, c'est celui qui va la condamner, disait, quel est le rapport entre le Christ et l'Église? Et la petite Jeanne de réfléchir, ben, me semble que du Christ et de l'Église, c'est tout un. Bravo! Et l'épouse et l'épouse font un, et je dis un cinq. Attention, quand nous commençons à laisser le relativisme entrer dans notre cœur, l'Église dit cœur, mais moi j'ai cœur. Et ça va parfois très loin, hein. L'Église demande qu'on n'aille pas communier à la présence réelle du Christ si on n'est pas en état de grâce, c'est-à-dire si on est porteur d'un péché, ou si on est dans une situation irrégulière, comme des divorcés mariés. Mais que des gens nous disent à ce moment-là, l'Église peut bien penser ce qu'elle veut, moi je décide que je vais communier. Ah mon Dieu! Vous avez moins de grâce par cette communion que si vous, humblement, vous demandiez une communion spirituelle. Bon, je ne suis pas là pour faire de la morale, mais je suis là pour vous dire, attention, le relativisme est rentré jusqu'au milieu de l'Église, il est là. Et là, il n'y a rien de pire que cela, parce que cela édulcore l'unité du corps, chacun en fait ce qu'il veut. On est dans l'individualisme. Les péchés, oh mon Dieu, on n'a plus la notion du péché. Bon, je parle à un mauvais public, enfin un bon public, mais mauvais pour ça, parce que justement, si vous êtes là, c'est que vous avez conscience de ces dangers. Mais que de fois, en confession, ça m'est encore arrivé il y a quelques jours. Vous savez, père, moi, je n'ai pas de péché, je n'ai pas tué mon père, ma mère, je n'ai pas de péché. Moi, je ne pas, je suis désolé, moi, je n'ai pas d'absolution. Il n'y a pas matière, quoi. Mais qu'est-ce que ça montre? J'honore la demande, puisque la personne fait des démarches. Mais ça veut dire tout simplement qu'on considère que il ne s'agit pas de passer par ce que dit l'Église pour discerner un péché. Dites. On oublie peut-être que nous sommes des aveugles et qu'un aveugle conduit un aveugle dans un trou. Et que si nous voulons marcher d'un pied sûr, il s'agit de suivre le seul qui voit, c'est Jésus. Et l'Église qui marche dans cette lumière. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Et celui qui accueille cette vérité sera vraiment libre, dit Jésus. Attention, hein, vous savez ces versets. Il faut que nous les réapproprions et que nous résistions à ce relativisme ambiant, aussi bien éthique sur le bien et le mal que sur la vérité. J'en prends et j'en laisse. Non, j'en prends pas et j'en laisse pas. Alors quand j'entends que 65% des chrétiens, vous m'entendez, croient à la réincarnation du monde entier qui tombe. C'est pour ça que je ne l'ai plus. Non, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je fais ma vérité. La lettre aux Hébreux est très claire, hein? On meurt une seule fois. Après quoi, le jugement? Mais je n'ai même pas besoin de la lettre aux Hébreux. C'est totalement incohérent. Vivre une vie sacramentelle qui m'unit de plus en plus au corps réel, vivant du Christ, et je vais réincarner. Ça va être un problème, hein? Si je suis déjà ressuscité avec Jésus, il y a une partie de moi qui va réincarner et une autre pas. C'est délirant. Mais tout ça fait partie de cette mouvance qu'aujourd'hui, nous sommes dans le relativisme, nous sommes dans le bricolage. Tiens, c'est intéressant, mais je prends un petit peu de... Nul ne va au Père sinon que le Fils et ce à qui le Fils veut révéler. Il y a une unité, une cohérence dans la doctrine de Jésus. Et je vous assure, au plus je l'approfondis, au plus je me dis, mais il faudrait étudier à genoux. C'est tellement beau, c'est tellement grand. Vraiment ce que le cœur de l'homme n'avait pas pu imaginer. Comme dit Saint Paul dans la Bible, de notre Corinthien, Dieu l'a réalisé pour nous. Mais qui connaît encore le christianisme? Je ne regarde pas, vous savez, c'est bien de ça que je voulais ou pas. Aujourd'hui, on voit, nous sommes tributaires de ce bof par rapport à la raison. Nous non plus, la défiance, la non-confiance dans la raison s'est infiltrée chez nous. Et la majorité des chrétiens sont hélas ignorants de leur christianisme. On s'en rend compte quand on prépare au sacrement, mon Dieu. Je vous assure, il y a des fois après des réunions de préparation au sacrement, j'ai pleuré comme un gosse. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Si je leur donne le sacrement, je brade parce qu'ils sont à mille lieues de comprendre ce qu'il est. Si je ne leur donne pas, je te prive peut-être d'une occasion d'intervenir dans leur vie. L'ignorance est incroyable, incroyable. Et chacun sait ce qu'il veut, et ils sont chrétiens. La dernière préparation au mariage, 12 couples, j'ai dû demander un babysitter, tous les 12 venaient avec leurs enfants. Bon, qu'il y en ait un ou deux d'exception, mais tous systématiquement. L'Église dit que, mais je dis que. Et puis aujourd'hui, j'ai envie du mariage. Et alors, les raisons pour lesquelles ils demandent. Ah mon Dieu, je me prépare maintenant, je me dis, tu vas entendre des choses, assieds-toi. Et puis d'autres choses, un jour, un papa vient de préparation au baptême, je jubile. D'habitude, c'est les mamans, mais le papa, on ne les voit pas. Et je suis tout heureux, je lui dis, monsieur, et vous, dans, au niveau de votre foi, je ne sais plus quelle question je lui pose, on essaie de voir sa relation au Christ, vous savez ce qu'il me répond? Ben, ne s'occupe pas de moi, c'est pas pour moi, c'est pour mon enfant, laissez-moi tranquille. Hein. Voilà l'individualisme. Je vous demande de donner le baptême à mon enfant, moi, ma foi, ça ne vous regarde pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ma foi, je la reçois à l'église, je la partage en église, et j'essaie d'avancer. Vous voyez, je vous donne des exemples. Comment on est tributaire? Et je dis la démission de l'intelligence. On ne réfléchit plus. Mais du coup, comment pouvez-vous rendre compte de l'espérance qui vous habite si on n'a pas les arguments, si on ne peut pas raisonner et faire avancer notre interlocuteur? Dernier petit exemple, mais c'est juste ceux qui vont. Pouf! Un jeune couple sympathique, quand je les prépare au mariage, puis vraiment, je vois qu'il décroche. Mais je dis, pardon, mais vous ne me suivez plus. Je dis, mais je viens de parler de la résurrection. La résurrection, vous voyez ce que c'est? Ils se regardent tous les deux, mais mon père, c'est quoi ça? Les chrétiens qui demandent le sacrement du mariage, le mot résurrection ne fait plus partie de leur vocabulaire. Comment voulez-vous parler de Jésus? Comment voulez-vous donner un sacrement qui est la participation à la mort et résurrection du Christ, y compris le sacrement du mariage? Qu'est-ce que c'est? Alors, il s'agit de se ressaisir sérieusement. Aujourd'hui, on crée un homme unidimensionnel, intentionnellement. Moi, je crois que c'est intentionnel. Regardez comment on est venu. L'homme biblique avait la prédominance en Europe qui était biblique. On a commencé par déclarer Dieu est mort. Allez hop, au lieu de trois étages, le corps, c'est l'union à la matière. L'âme, c'est les facultés psychiques. L'esprit, c'est l'ouverture à la transcendance. Capax Dei, dit saint Augustin. Le cœur, comme dit le prophète Ézéchiel. On a commencé par déclarer que Dieu est mort. S'il est mort, bidimensionnel, le cœur ne sert plus à rien. La raison, triomphante, bidimensionnelle, est la raison divine. Aujourd'hui, la raison n'y croit pas non plus. Éliminée, il ne reste plus qu'une dimension. Le discernement par l'affectivité et la recherche de la jouissance. Comme disait Nietzsche, le retour de la spontanéité instinctive, l'homme unidimensionnel. Et vous savez où on va? Vers la nouvelle humanité. C'est vers le transhumanisme. Le NBIC, vous connaissez tous le NBIC, n'est-ce pas? Non, bien sûr, j'ai jamais entendu. Attention, frères et sœurs, je vais juste en dire deux mots, mais. C'est vraiment, encore une fois, on nous prépare quelque chose qui va nous déborder parce que nous ne serons absolument pas préparés. Le NBIC, N, c'est les nanotechnologies, les technologies de l'infiniment petit. Le B, c'est les biotechnologies. Le I, c'est l'informatique. Et le C, c'est les cognitive sciences, les sciences cognitives. NBIC, c'est l'américain, c'est un américain. C'est pour là ce qu'on appelle le transhumanisme. Quel est le projet là? Et là, je prouve que notre humanité est fatiguée d'elle-même. Il y a une sorte de dégoût de l'humanité. On va en construire une nouvelle. En maîtrisant les techniques que je vous ai dites, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, on va construire progressivement un homme artificiel. Vous me dites, vous avez lu, vous avez trop été au cinéma? Non, pas du tout. Les cyborgs existent déjà. Cybernetic organisme. Les organismes cybernétiques, cyborgs, ils existent déjà. Par exemple, bon, mais là je prends cet exemple-là pour vous montrer comment on va vous faire tout accepter. Les lunettes, c'est déjà un organe artificiel qui prolonge votre œil. Vous rigolez. Le pacemaker, c'est un appareil artificiel que l'on met sur votre cœur pour qu'il marche, continue. Donc il y a un relais technologique de l'organe. Le cœur, c'est des cœurs de cochon, hein, la transplantation d'un cœur étranger, d'un animal, la transplantation d'un organe artificiellement construit dans un laboratoire, vous voyez, c'est quand on remplace des éléments organiques par des éléments incorruptibles. Et le rêve du transhumanisme, c'est d'arriver enfin à l'immortalité de l'homme, par le remplacement progressif de toutes les parties vitales qui sont susceptibles de se dégrader jusqu'à construire un homme artificiel. Attention, il y a des milliards aux États-Unis qui sont investis dans ces recherches. Et lorsqu'il y a des auteurs, comme qui maintenant est embauché par Google, juste un petit, mais là on est reparti pour deux jours hein, sur ce sujet, mais juste quelques éléments pour vous rendre attentifs. Google, vous connaissez tous Google, bien sûr. Mais Google travaille, il rassemble des informations, quel est le but? En même temps, il y a les cognitive sciences qui sont occupés à construire une nouvelle génération d'ordinateurs qui fonctionnent sur le modèle du cerveau. Et donc, l'idée, c'est de centraliser plus d'informations dans un cerveau collectif là-bas. J'oublie maintenant son nom, qui est un de ses grands promoteurs, a créé une université où tous les ans, il rassemble les majors des grandes universités américaines et il leur offre, dans ces entreprises qui s'occupent de ces techniques MBIC, il leur offre un pont d'or hein, pour qu'ils s'embauchent là-dedans. Et le but, c'est cela, de faire avancer cette recherche où on puisse faire un ordinateur plus performant que le cerveau. Kurt Gutzweil dit qu'en 2021, on y est. C'est pas tellement loin. On aura un ordinateur qui sera plus performant que le cerveau humain. Donc la seule chose qu'il nous reste à faire, dit-il, c'est de migrer sur cet ordinateur. C'est-à-dire d'essayer de nous unir à cet ordinateur. Vous voyez l'idée d'un robot, d'un homme artificiel, un cyborg, ça, un éco-organisme. Ça ne vous donne pas l'impression d'une humanité qui est tellement dépressive qu'elle a envie de créer une humanité nouvelle, mais artificielle. Je vous parlais hier de l'utérus artificiel, mais c'est dans la même ligne. Retenez bien ces termes. Transhumanisme, post-humanisme. Il y a enfin quelques philosophes qui commencent à réagir vigoureusement. Si j'avais du temps, je travaille un peu, mais je manque de temps. Vraiment, un des prochains points, c'est là-dessus. Il y a un clignotant rouge. Qu'est-ce que vous entendez derrière? Parce que là, vous suivez plus le fil de ma pensée. J'ai dit qu'on est passé d'un homme tridimensionnel à bidimensionnel à indimensionnel, uniquement de la matière. On ne croit plus à la transcendance de l'esprit. On est de nouveau dans une perspective purement matérialiste. L'homme n'est qu'une matière pensante, rien de plus. Donc, si nous parvenons à reproduire la complexité de la matière, c'est la matière vive du cerveau, dans une machine, nous aurons les mêmes performances qu'un être humain. Sous-entendu, il n'y a pas d'âme. Je lisais encore, pas il y a quelques jours, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus d'âme. À nous de construire l'homme nouveau. Il n'y a plus de Dieu qui prétend être le Créateur. Il n'y a plus d'âme, cet élément spirituel qui échappe à la science et à la technique. À nous de construire l'homme nouveau. C'est clairement dit. Vous n'avez pas entendu parce que vous ne cherchez pas, vous faites le. Mais je dis, je fais la recherche, je me fais l'écho. Vous entendez le danger là? L'homme unidimensionnel. Attention, notre éducation pour les enfants va devenir de plus en plus difficile. Et ce qu'on leur donne à ces enfants, mais tous ces virtuels informatiques et sans cesse, qui sont de plus en plus désincarnés aussi. On va vers cette direction-là. Vous savez, je pourrais vous parler des expériences qui se font aux États-Unis. On est déjà très loin. Savez-vous, juste là, et puis je me tais, qu'on vous donne des expériences qui fonctionnent déjà. On vous donne une planche avec 20, disons 20 fruits. Ça fait beaucoup 20 fruits, parce que je ne sais pas si on en trouve 20 différents, mais bon, 20 fruits ou 20 animaux. Et vous ciblez, vous dites, je choisis l'éléphant. Mais vous ne le dites à personne. On vous met des électrodes, ils vont réussir à dire, avec une marge d'erreur minime, ils vont trouver que je pense à l'éléphant. Parce qu'ils ont vu qu'en fonction de l'animal, ça va stimuler d'autres zones du cerveau. On peut simuler dans l'ordinateur déjà, c'est élémentaire, c'est pas un raisonnement, mais déjà les premiers éléments de la pensée. Et l'autre grosse recherche, c'est sur les émotions.
On a déjà découvert les molécules biochimiques qui correspondent à chacune de vos émotions. Et de là à provoquer par manipulation du cerveau l'émotion qui correspond, il n'y a qu'un pas. Ça avance très vite, mais évidemment dans les grands secrets. J'ai vu une entreprise, un robot, les robots c'est du même ordre, hein, un robot qui faisait l'embauche du personnel. Parce que quand vous embauchez, c'est difficile de savoir, quand vous regardez votre interlocuteur, est-ce qu'il ment, il dit la vérité ou quoi? Est-ce qu'il bluffe? Alors que ces robots sont pleins d'appareils extrêmement sophistiqués qui voient la moindre réchauffement de votre muqueuse, parce que quand vous montez, il y a forcément la température monte, etc. Glissement de votre... qui vous regarde. Et on se sert de ça maintenant pour voir si vous répondez aux questions de détecteur de mensonge ou détecteur de bluff. C'est quand même impressionnant. Nous allons être jugés comme des machines, indépendamment de tout acte de liberté, voilà, pour entrer dans cette case, etc. Vous sentez le danger qui s'annonce là à travers cet anti-humanisme qui continue à avancer. Bon, tout ça, c'est haut les cœurs. Hein. Haut les cœurs, réveillons-nous. Il faut qu'on remonte la pente et qu'on sache donner un témoignage d'une humanité pleine, d'une humanité épanouie, qui croit en la valeur spirituelle et qui trouve son épanouissement dans la relation avec Dieu. Ça marche, cet homme unidimensionnel, dans une société dépressive qui n'a plus rien d'autre à offrir que les jouissances superficielles. Et la drogue, on aide aussi par là, hein, par beaucoup de choses. On va par la pornographie, on va maintenir ces jeunes dans un niveau très bas. Solzhenitsyn l'avait dit aussi, que la meilleure façon d'inhiber les réactions des gens oppressés, c'est de diffuser de la pornographie. C'est impressionnant, je l'ignorais ça. Qu'il le faisait aussi bien en Russie qu'en Allemagne, on le diffuse pour diminuer. Ben oui, on réagit plus, on devient aliéné, dépendant de cette chose-là. Voilà cette culture en déconstruction qui se commence depuis longtemps, vous savez, je vous lis. Ce prophète qui n'est pas sympathique, Nietzsche, mais qui a vu juste en beaucoup de choses. Écoutez ce qu'il dit. Nous sommes dans l'hiver 1873. Partout des symptômes de dépérissement de la civilisation, de sa totale extirpation. Refus du religieux, lutte nationale, action morcelante et dissolvante. La méprisable soif d'argent et de plaisir des milieux cultivés, leur manque d'amour et de grandeur. Que les milieux savants eux-mêmes sont eux aussi pris dans ce mouvement, c'est dont je me rends mieux en mieux compte. La dépendance de l'argent et la recherche. Ils deviennent de jour en jour plus pauvres en pensée et en amour. Tout sert la barbarie montante, l'art aussi bien que la science. Où devons-nous tourner nos regards? Le grand déluge de la barbarie est à nos portes. Monsieur Nietzsche, il a bien vu. Et vous savez, le vrai problème, nous l'avons compris, hein, c'est la crise de Dieu, Ratzinger disait, le vrai problème de notre temps est la crise de Dieu, l'absence de Dieu camouflée par une religiosité vide. Et Hans Jonas, un des grands philosophes aussi éthiciens de notre époque, a dit que le renoncement à la transcendance, il n'est pas croyant, il n'est pas chrétien, pardon, le renoncement à la transcendance est l'erreur la plus colossale de l'histoire. Hans Jonas. Un juif, Lévinas, avait mis en garde contre l'abandon du souci de la transcendance. Mais tous, Benoît XVI, en la conclusion de la conférence qu'il prononçait au Collège des Bernardins en 2008, il évoque la question de l'athéisme et des dangers de sa théorisation. Et il dit, ça va conduire à la faillite de l'humanisme, je le cite. Pour beaucoup, Dieu est vraiment devenu le grand inconnu. Une culture purement positiviste, qui renverrait dans le domaine subjectif, comme non scientifique, la question concernant Dieu, serait la capitulation de la raison, le renoncement à ses possibilités les plus élevées, et donc un échec de l'humanisme, dont les conséquences ne pourraient être que très graves. Dit-il a prononcé ça en 2008. Vous entendez quelle vigoureuse mise en garde, très grave. Et oui. Camus termine L'homme révolté en disant « Le secret de l'Europe, c'est qu'elle n'aime pas la vie, c'est qu'elle n'aime plus la vie. » Et voilà, voyez qu'aussi bien un Camus existentialiste, tous sont d'accord sur ce même point. La mort de Dieu, proclamée avec tant de jactance et tant d'orgueil, la mort de Dieu entraîne la mort de l'homme dans son sillage. Car ce qui donne la dignité à l'homme, c'est justement cette relation à Dieu. Cette capacité d'être fils de Dieu, c'est ça notre grandeur. Alors c'est de cela que nous avons à témoigner au cœur de ce monde qui est occupé à basculer dans l'abîme de la désespérance. Et attention, parce que quand on arrive à de tels moments de désespérance, tout est possible. Le pire, rarement le meilleur, mais le pire, ça peut déclencher des grandes guerres mondiales, oui. Quand il n'y a plus d'espoir, alors on va dire à n'importe quelle solution. Et c'est pourquoi il est urgent, et quand on entend nos derniers pas, il est urgent de résister à la civilisation de la mort et de construire cette civilisation de l'amour et de la vie. Je viens de me faire signe que je suis au bout et je croyais vous donner la parole. Finalement, j'étais encore pire que hier parce que je ne l'ai pas donné du tout. Pardon, vraiment pardon, je n'étais pas prévu, ce n'était pas intentionnel, mais voilà. J'espère que vous ne vous sentez pas trop bien. J'espère que vous ne vous sentez pas trop privé de parole dans tout ça. J'avais apporté Jean-Paul II, mais il n'a pas eu l'occasion. Notre-Dame de Morin, toi qui portes le souci de tous tes enfants, qui vois beaucoup mieux que nous le drame de cet anti-humanisme, comment le Satan étend ses filets de plus en plus, nous te demandons par la puissance que tu as reçue de Dieu de déchirer ces filets du Satan et d'envoyer l'Esprit Saint dans le cœur de nos frères pour qu'ils se réveillent de ce sommeil et qu'ils puissent éveiller à la lumière du Dieu d'amour qui les appelle. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres péchés, maintenant